Chronique environnement en compagnie de M. Johan Jalouzeau qui est au bout du fil. Bonjour Johan.
Bonjour Simon. Encore mon excuse pour la chronique du mois dernier. La connexion a bugué et j'ai été déconnecté.
Il n'y a aucun problème, mon cher. Aujourd'hui, tu devais soit trouver un intervenant ou une intervenante histoire de parler d'un projet de restauration de l'habitat du poisson ou soit nous parler de la biodiversité en milieu agricole. Comment ça va se passer?
J'ai contacté plusieurs personnes, mais en ce moment, tout le monde est très occupé en cette saison printanière. Aujourd'hui, on va donc parler de biodiversité en milieu agricole, thème qui est tout aussi intéressant.
Tout à fait. Est-ce que tu peux un peu nous introduire sur le sujet pour commencer?
Oui, bien sûr. En fait, j'ai choisi de vous parler de biodiversité en milieu agricole, car on entend souvent parler de biodiversité en milieu forestier, en milieu aquatique, par exemple, et plus rarement quand ça touche à l'agriculture. Cependant, elle occupe une place centrale dans plein de régions québécoises, et y compris ici en Abitibi-Témiscamingue. Alors oui, si on parle, c'est sûr, de monoculture intensive, boostée aux engrais chimiques, c'est clair qu'au niveau de biodiversité, c'est pas... Mais même sans ça, des fois, c'est seulement dû à un manque de moyens, que ce soit financier ou humain, ou à un manque de connaissances concernant tous les services que la biodiversité offre aux écosystèmes agricoles.
Et comment on fait pour savoir c'est quoi la biodiversité qu'il y a sur nos terres agricoles, par exemple?
Alors, par exemple, il y a un projet provincial qui s'appelle Biodiversité Québec et qui rassemble toutes les observations de faune et de flore disponibles, qu'elles proviennent de scientifiques, de participations citoyennes, et qui les mettent sur une carte interactive en ligne. À l'OBVT, on effectue des parcelles pour ce projet depuis l'année dernière, et cette année, pour la première fois, on le fait sur des terres agricoles à Guigues, donc on a vraiment hâte de voir quels vont être les résultats des inventaires.
Et tantôt, tu as parlé de monoculture intensive, mais est-ce qu'il y a des programmes ou subventions qui permettraient de remettre la biodiversité au cœur des pratiques agricoles, par exemple?
Oui, par exemple, il y a un programme de rétribution qui connaît un franc succès, mais par contre, dont les retombées ne sont pas mesurées. En fait, c'est une initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales, donc de mise en valeur. C'est un programme du MAPAC, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Et c'est intéressant de savoir que depuis cette année, ce programme est reconnu au niveau fédéral dans le cadre du partenariat canadien pour une agriculture durable. Donc au niveau de ce plan de rétribution, en fait, il s'inscrit dans le plan d'agriculture durable 2020-2030 qui vise à accélérer l'adoption des meilleures pratiques agro-environnementales. Donc, son objectif, c'est vraiment de reconnaître et d'encourager financièrement l'adoption par les producteurs agricoles de pratiques qui vont au-delà des exigences réglementaires et qui génèrent des gains environnementaux importants. Le budget pour ce programme, c'est quand même 119 millions de dollars. Donc, ça permet vraiment de soutenir les producteurs qui veulent devancer les réglementations pour favoriser la biodiversité sur leurs terres.
119 $, c'est wow, hein, on s'entend. Est-ce que le gouvernement du Québec incite d'autres initiatives histoire d'accroître la biodiversité en milieu agricole?
Ouais, toujours dans le cadre du plan d'agriculture durable 2020-2030, c'est une opportunité qui peut être vraiment intéressante afin d'inciter les entreprises agricoles à réseauter entre elles et adopter les pratiques environnementales les plus durables. Et en fait, c'est la création de cohortes régionales. Donc ces cohortes doivent être constituées au moins d'un responsable, d'un conseiller du MAPAC et d'au moins 5 entreprises agricoles. Le gouvernement en fait offre des subventions pour organiser les activités liées à la cohorte, soit les rencontres de réseautage, les activités de transfert de connaissances, incluant un montant qui va directement aux entreprises agricoles. Donc ça aide vraiment à co-développer des solutions ensemble, comme la réduction de l'usage des pesticides, conserver la santé des sols, gérer les fertilisants, l'eau et bien sûr préserver la biodiversité.
Donc c'est quand même de très belles choses là, pour ce qui est du plan d'agriculture durable 2020-2030. Est-ce que ça a eu des impacts positifs ici en Abitibi-Témiscamingue?
Oui, absolument. L'UPA a présenté en avril dernier un programme de valorisation et de reconnaissance des bonnes pratiques qui s'intitule « L'agriculture complice de la biodiversité ». Il y a plusieurs entreprises agricoles qui ont présenté ce qu'elles mettent en place pour favoriser la biodiversité sur leurs terres. Donc, par exemple, ça va être végétaliser sa bande riveraine pour limiter l'érosion, infiltrer les eaux de pluie, créer des habitats qui vont être variés. Ça va être mettre des brise-vents pour limiter l'érosion à cause du vent et assurer une croissance plus rapide des plants au printemps car il y aura moins de gel en hiver, une diminution du travail des sols pour préserver les micro-organismes fait, tout ce genre de pratiques qui peuvent être bénéfiques pour les terres agricoles et pour l'environnement.
Et si je comprends bien, dans le cadre de programmes spécifiques comme tel, mais est-ce qu'il y a des initiatives indépendantes de certaines entreprises agricoles qui souhaitent peut-être valoriser la biodiversité sur leurs terres?
En effet, par exemple, il y a l'entreprise Meristem, donc qui a été fondée par le biologiste Ambroise Lick, qui est quand même assez connu dans la région, qui a créé un plan de protection et d'amélioration des écosystèmes pour la ferme Norvie, qui est située à Saint-Bruno-de-Guigue. Donc ça passe, c'est passé en premier par un diagnostic de qu'est-ce qu'on retrouve comme habitat, comme faune et comme flore sur les terres, puis de proposer des améliorations afin de diminuer les menaces et de bonifier les écosystèmes, par exemple en créant des habitats pour des espèces qui vont pouvoir rentrer bénéfiquement dans la chaîne alimentaire et permettre le contrôle des nuisibles. Je pense notamment, ils ont créé des habitats pour l'hirondelle bicolore. Vraiment, l'objectif, c'est de recréer un écosystème qui est complet et donc qui va permettre une autorégulation par lui-même. Donc ce type de plan permet de faire entrer la faune et la flore dans la prise de décision, de trouver les opportunités d'augmenter la quantité de sources de nourriture pour les par exemple.
Ouais, les pollinisateurs, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de savoir ce que l'on a sur nos parcelles agricoles que d'avoir recours à des biologistes? Est-ce qu'il y a des guides, par exemple, qui existent?
Oui, justement, il y a une merveilleuse boîte à outils qui est vraiment récente, qui est parue en janvier de cette année. C'est une boîte à outils qui est interactive et qui sert à centraliser toute l'information qui existe, et ça part en fait d'un dessin interactif. Donc il y a plusieurs façons d'entrer en interaction avec ce dessin interactif. On peut soit choisir les types d'habitats, donc que ce soit comme le bois mort, que ce soit comme les plaines, que ce soit les fleurs. Et par exemple, si on parle des bandes riveraines, si on clique dessus, on va voir comme tous les bénéfices d'avoir une bande riveraine en santé. On va voir quelle faune on va retrouver dedans, donc les oiseaux, les amphibiens, les reptiles, les pollinisateurs. Et en fait, ça va nous emmener vers plein de guides, de répertoires et de programmes. Donc il y a énormément d'experts et d'organismes qui ont leurs ressources, qui ont été intégrés à cet outil. Donc, ça évite d'avoir à travailler en double, ça permet d'offrir des recommandations pertinentes à la fois pour les producteurs et à la fois pour les professionnels de l'environnement, pour aller chercher plus facilement les subventions en adaptant les actions et les discours pour développer, pour en fait améliorer le développement des projets. Donc, je vous invite à aller voir de quoi ça a l'air, c'est vraiment très bien fait. Et il suffit de taper dans votre moteur de recherche connectivité écologique ou directement connectivitéécologique.com sans accent. Là, vous allez aller dans boîte à outils, choisir le type d'intervenant. Donc, par exemple, ça peut être pour une MRC, ça peut être pour une municipalité, mais ça peut être également pour quelqu'un du milieu agricole. Et c'est là où vous allez trouver ce fameux dessin interactif. C'est vraiment bien fait. Je vous conseille d'y aller.
Johan Jalouzo, coordonnateur de projet en environnement en charge de la mobilisation à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était déjà la dernière chronique environnementale de la saison. Alors, encore une fois, je te dis merci et on se retrouve, qui sait, en septembre pour de nouvelles aventures.
Grand plaisir. Merci, Simon. Merci, tout le monde. Au revoir.
Au revoir.